Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et Franck Ferrand a décidé de nous faire voyager en ce début d'après-midi. Bonjour Franck.
Bonjour Julia, bonjour à tous. Vous avez raison, c'est loin, Sainte-Hélène est terriblement isolée. Du reste, c'est bien pour ça que les Anglais avaient choisi cette petite île pour y exiler Napoléon après la défaite de Waterloo. Il s'agit d'un rocher volcanique perdu dans l'immensité de l'Atlantique, coupé de tout, à quelques 1900 km des côtes sud-africaines et 3500 km de celles du Brésil. Vous mesurez un peu la solitude de l'endroit, et d'autant plus que c'est une toute petite île, hein, 122 km², c'est à peine plus grand que l'île de Ré, et c'est même plus petit que l'île d'Oléron.
Et c'est donc là qu'est mort Napoléon.
Un certain 5 mai 1821, et dans des circonstances pour le moins troubles.
Alors vous qui nous écoutez, je vous le dis presque chaque jour, mais c'est important, vos questions sont les bienvenues sur le site internet d'Europe 1.
Au cœur de l'histoire, c'est le titre de l'émission, une histoire mystérieuse à souhait cet après-midi, noyée dans les brumes océaniques de cet îlot du bout du monde.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
Le 25 juin 1815, il y a une bonne semaine que l'Empire déjà s'est effondré à la suite de Waterloo. Les armées de la coalition se rapprochent de Paris et depuis l'Élysée déjà, Napoléon, qui vient d'abdiquer en faveur de son fils unique, le roi de Rome, s'est transporté à la Malmaison. Une Malmaison qui est encore pleine du souvenir de Joséphine qui vient de disparaître, pleine du souvenir des temps heureux. Trop tard. Le 29 juin, à 17h30, l'empereur déchu prend la route à destination de Rochefort-sur-Mer où l'attendent déjà deux frégates, la Salle et la Méduse. Son idée, son espoir, on tente à l'oublier ça parfois, c'est de se rendre aux États-Unis. Napoléon voyage incognito, en habit bourgeois, mais plus on s'éloigne de la capitale et à mesure que se reforme autour de lui le cortège constamment grossi de futurs compagnons d'exil, et plus les populations reconnaissent l'ancien souverain, l'acclament, cherchent à le retenir. Chartres, Châteaudun, Vendôme, Tours, Poitiers... Le dimanche 2 juillet, Niort réserve une ovation à Napoléon, puis on traverse Mauzé-sur-le-Mignon, Surgères, le 3 juillet à Rochefort. Et dans les jours qui suivent, la foule est littéralement en délire. Seulement, les autorités locales temporisent et l'entourage de l'ancien souverain tergiverse. Où aller ? De quelle manière s'y rendre ? Les États-Unis restent évidemment la destination idoine, mais Napoléon réfute toute idée de fuite. Il entend quitter son pays la tête haute. Cependant, à Paris, la royauté est en train de se réinstaller et à la tête de sa police, le redoutable Fouché qui a retourné sa veste, vous savez, et qui s'impatiente. L'existence même de Napoléon, il le sait mieux que quiconque, est un danger pour le nouvel équilibre européen. C'est du reste Fouché qui alerte les Britanniques sur les risques de voir une fois de plus l'ogre échapper à leur vengeance. Plusieurs corvettes anglaises sont immédiatement envoyées dans le pertuis d'Antioche, autour d'un vieux vaisseau, le Bellérophon, que son équipage a depuis longtemps surnommé Bill the Ruffian, Bill le bandit. Napoléon voit le piège se tendre devant lui. Il se réfugie d'abord à Fouras, d'où il s'offre la possibilité d'un repli facile sur l'île d'Aix. Cette île d'Aix qu'il inspecte le 9 juillet, il s'y intéressait en fait depuis 1801 et il en a dès 1808 renforcé les défenses. Il y a même fait bâtir une maison pour le commandant de la place. Ironie de l'histoire, c'est dans cette demeure que, la pression anglaise devenant trop forte, il va devoir finir par se réfugier. Napoléon a envoyé Lascaz et Savary sur le Bellérophon afin de négocier son départ pour les États-Unis. En vérité, l'empereur déchu croyait, mais il croyait à tort, que l'amiral Otham se trouvait à bord du Bellérophon. En fait, ce n'est pas lui qui est là, c'est un simple capitaine de la marine britannique. Savary revient donc avec une fin de non-recevoir, ce qui l'effraie beaucoup à titre personnel. Savary, en effet, ne songe qu'à quitter la France car il sait que le nouveau régime le regarde, lui en particulier, comme un ennemi public. Il convainc Napoléon d'adresser au prince régent d'Angleterre la célèbre supplique du 13 juillet et, en attendant la réponse, l'ex-empereur se présente à la coupée du Bellérophon. Il se met en quelque sorte sous la protection des Britanniques, on connaît la suite. Le maintien de Napoléon loin du sol anglais, Ça, c'est pour éviter qu'il puisse bénéficier du droit d'asile. La décision des Britanniques de l'envoyer à Sainte-Hélène, le transfert de l'empereur déchu du Bellérophon sur le Northumberland, c'est le début d'une très très longue traversée, à 9 semaines de navigation jusqu'à cet îlot désolé où il débarque avec ses ultimes compagnons en octobre 1815. Voici la description que le docteur Gagnère, c'était le véritable chantre de Sainte-Hélène dans les années 50 et 60. Voilà la description qu'il nous donne de l'endroit. La découverte à l'horizon de ce fragment de terre couronné de nuages, émergeant des flots sombres après tant de journées de traversée, exerce toujours sur le public une sorte de fascination. De nos jours, comme en 1815, les navires n'abordent pas directement à Sainte-Hélène et mouillent à quelques encablures du rivage. Les contours de l'île se sont peu à peu dessinés, et c'est au pied d'un impressionnant bloc de rochers, hostile et dénudé, que le bâtiment s'immobilise enfin. Seul, glissé entre les pentes arides de 2 blocs montagneux, la petite bourgade de Jamestown, avec ses toits rouges et la tache verte de ses rares frondaisons, donne l'impression que quelque vie sociale a pu se développer en ce lieu perdu. Et je cite encore le docteur Gagnère, « J'imagine la silhouette de l'empereur vaincu qui, dans la pénombre du 17 octobre 1815, 94 jours après avoir quitté le sol français, 131 après avoir été défait par la coalition de ses ennemis, y fut accueilli par un amiral anglais qu'avait désigné le gouvernement de Londres comme gardien provisoire. » À son arrivée, Napoléon est d'abord logé chez les Balcombe, au pavillon dit des Briards. C'est ici, vous savez, qu'il va rencontrer la jeune Betsy Balcombe, qui réchauffe un peu son cœur,
Quel lapsus
révélateur. Et puis, le 10 décembre, il est conduit à son lieu de résidence définitif, une ferme en partie délabrée qui se trouve sur le plateau de Longwood, et que le nouveau gouverneur de l'île, le terrible Hudson Lowe, qui va devenir un peu le geôlier de l'empereur, fera surveiller désormais nuit et jour. C'est un lieu laminé par des pluies diluviennes auxquelles succède très vite un soleil mordant, un lieu brumeux, humide, étouffant.
From Jamestown de Stéphane Echer, tiré de la bande originale du film Monsieur N, un film d'Antoine Decaune. Décidément, c'est lundi. Hein.
Alors, à nouveau, les impressions du docteur Gagnère. Je ne suis pas allé moi-même à Sainte-Hélène, donc je m'en remets à lui. La seule vue de cette maison, dit-il en parlant de Longwood, serre le cœur. Après avoir occupé les plus beaux palais d'Europe, l'empereur dut se contenter de ce simple rez-de-chaussée en forme de T, crépi en rose et recouvert d'un toit d'ardoise, derrière lequel des bâtiments disparates servaient à loger ses officiers et ses serviteurs. 6 pauvres pièces, une salle de billard précédée d'une véranda en bois, un salon, une salle à manger, une bibliothèque, un cabinet de travail, une chambre à coucher formaient son habitation personnelle. Une salle de bain ouvrant sur la chambre qui permettait de goûter un plaisir salutaire, devenu bientôt indispensable à son équilibre. Et il ajoute, dans ce cadre mesquin, l'empereur vécut des jours interminables, allant d'une pièce à l'autre, cherchant dans le travail ou la rêverie un remède contre l'ennui qui, de semaine en semaine, se faisait plus pesant. Là, il découvrit toute la monotonie d'une existence sans but. Il mesura toute la profondeur d'une chute qu'il se refusa longtemps à croire définitive. Il se sentit soulevé par les dernières révoltes d'un homme qui, après avoir tant commandé, devait bien malgré lui se résigner à subir. Entre ces murs, il connut aussi la souffrance physique qui, minant lentement son organisme, fit de lui en quelques mois un moribond. Ces derniers mots sont très importants, parce que ce qu'il ne faut jamais oublier, en effet, c'est que Napoléon, bien qu'il n'ait alors que 46 ans, il a 46 ans au moment de son arrivée, c'est du reste exactement le même âge que son geôlier, que Hudson Law, Napoléon à Sainte-Hélène n'aura cessé d'être malade. Il est entouré d'un petit nombre de fidèles, il y a là le grand maréchal Bertrand, le général Gourgaud, toujours un peu trop empressé, le fameux général de Montholon, sur lequel courent tant de rumeurs, des rumeurs d'empoisonnement notamment, quelques femmes aussi qui accompagnent leur mari et tentent de distraire l'empereur, enfin le personnel. Napoléon ne peut plus correspondre directement avec sa famille, ou même simplement avec la France. Son courrier est ouvert par les Anglais, des Anglais qui sont tout de même 2500 sur l'île, dont 500 officiers, à épier sans répit cette maison de Longwood où la couronne britannique a fini par assigner à résidence le plus important prisonnier politique de tous les temps.
Au cœur de l'histoire, revient dans un instant sur Europe 1.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et le récit de Franck revient aujourd'hui sur Europe 1, sur l'exil de Napoléon à Sainte-Hélène.
Sur son exil et sur cette maladie donc qui le torturait. De quelle maladie Napoléon souffrait-il pendant cette période de Sainte-Hélène ? Donc, vous avez bien compris qu'il est arrivé là en octobre 1815 et qu'il n'y est mort qu'en mai 1821. Ça fait donc près de 6 ans quand même, 6 ans de cette espèce d'attente, de très 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 longue captivité. Le premier élément dont nous disposions, c'est le diagnostic de son premier médecin à Sainte-Hélène, l'Irlandais O'Meara, qui nous parle d'une maladie chronique du foie. Il aurait fini par mourir, selon cette thèse, d'un abcès du foie compliqué de dysenterie amibienne. O'Meara, je m'empresse de le dire, était un bon, voire un très bon médecin, et le problème avec lui, en tout cas du point de vue des Anglais, c'est qu'il refusait un peu trop de coopérer. Il était trop droit, ce bonhomme-là. Et notamment, il a refusé de servir, en tout cas quand je dis qu'il a refusé, il s'est montré très réticent sur la tâche qu'on lui confiait, qui était de servir d'espion à Longwood. Ce qui fait que le gouverneur Hudson Law a fini par se lasser et l'a renvoyé. Et le renvoi d'O'Meara est vraiment compris par Napoléon comme un véritable coup. C'est un coup qu'on lui porte. « Le crime se consommera plus vite », dit Napoléon. « J'ai vécu trop longtemps pour eux ». On sent l'aigreur chez cet homme qui a été si puissant et qui se retrouve dans une telle situation. Mais aussi, derrière cette aigreur, je crois une grande lucidité à laquelle on ne prête souvent pas suffisamment d'attention. Le grand maréchal Bertrand réagit. Il écrit notamment à la famille de l'empereur, à sa propre mère, à Madame Mère, qui est elle-même en exil à Rome et qui est là avec son demi-frère, le célèbre cardinal Fesch. Bertrand les supplie d'envoyer au moins un médecin et un prêtre, car il faut soigner non seulement le corps, mais aussi l'âme de l'empereur qui se laisse dépérir petit à petit. Or, Madame Mère et son demi-frère de cardinal, qui sont donc protégés par le pape Pie VII et qui vivent dans le palais Rinucci, dans une sorte de curieux climat, ils sont victimes, on peut dire, d'une forme de mysticisme, de superstition. Autour d'eux, un certain nombre de personnes de qualité seraient prêtes à porter secours à l'empereur. Il y a notamment le docteur Fourreau de Bourgard, qui a été son ancien premier médecin. Il y a plusieurs prélats qui sont fidèles à celui qu'il continue de regarder comme le restaurateur de la religion en France. Eh bien non, tout ce que la famille de l'empereur trouve à lui envoyer, c'est un vieil abbé corse, qui s'appelle Bonavita, qui est hémiplégique, enfin vraiment, ça n'est pas un cadeau, si vous me passez l'expression, et qui se fait accompagner de l'abbé Vignali, qui est un ignorant personnage, et un obscur médecin, un certain Antomarchi, qui est un Corse de 29 ans, qui, entre nous soit dit, a acheté son doctorat à Pise et ne brille pas vraiment par son talent. Pourquoi une telle légèreté ? Pourquoi avoir ainsi répondu à la demande, aux objurgations de Bertrand ? Eh bien, parce que Madame Mère et parce que le cardinal Fesch sont convaincus qu'à ce moment-là, l'empereur n'est plus à Sainte-Hélène. Depuis quelques mois, ils vivent dans cette illusion, une illusion entretenue par une voyante autrichienne qui littéralement les berce de belles paroles, des paroles fallacieuses, vous l'avez compris. En attendant, Antomarchi, Bonavita et Vignali arrivent à Sainte-Hélène le 18 septembre 1818. Antomarki va rencontrer évidemment le gouverneur Hudson Lowe qui lui dit que finalement l'empereur ne souffre guère que d'une maladie diplomatique. On constate bien la douleur vive au côté droit de l'ancien empereur. Le côté droit, le côté du foie. Mais Antomarki dit qu'il s'agit d'une simple constipation et lui prescrit un émétique. Un émétique qui n'aura évidemment que de terribles effets sur un ancien ulcère à l'estomac qui ne peut dans ces conditions que se réveiller. Il faut dire qu'Antomarki est un personnage qui fait preuve d'une certaine sécheresse de cœur que, du reste, que l'empereur supporte très mal. On voit Napoléon à plusieurs reprises s'emporter contre Antomarki. On a le droit d'être ignorant, dit l'empereur, mais pas de manquer de cœur à ce point. Pendant ce temps, à Rome, on ne s'en fait pas vraiment, je vous ai dit pour quelle raison, et finalement c'est quand même le vieil abbé Buonavita qui va ouvrir les yeux à Madame Mère. Il faut rapatrier l'empereur, explique-t-il. Il est malade, il est très malade. Alors cette fois, Madame Mère se remue un peu, elle écrit des lettres à 6 personnages très influents à travers l'Europe. De toute façon, il est trop tard parce qu'au moment où elle se réveille, Laetitia, son fils est déjà mort depuis 2 mois. Le 15 avril 1821, Napoléon a rédigé son dernier testament et il dicte cette phrase. « Je meurs prématurément, assassiné par l'oligarchie anglaise et son sicaire. Le peuple anglais ne tardera pas à me venger. » Moins de 3 semaines plus tard, il est mort. Le médecin corse Antomarki et 5 médecins anglais vont procéder à l'autopsie. Qui conclut à un ulcère de l'estomac, probablement cancéreux. C'était déjà le mal dont était mort Charles Bonaparte, le père de Napoléon. Un autre procès-verbal sera établi 2 ans plus tard, en septembre 1823, par un autre témoin de l'autopsie, le docteur Henry. Lui pense que les ulcérations scléreuses tendaient à ce moment-là à prendre un caractère cancéreux. Toujours est-il que la thèse officielle est maintenant lancée. Pour l'histoire, et c'est ce qu'on trouve aujourd'hui dans tous les ouvrages, j'allais dire entre guillemets, sérieux, pour l'histoire, Napoléon est bien mort globalement d'un cancer de l'estomac. Ça va durer, cette thèse, quasiment sans contestation, c'est pas tout à fait le cas, mais avec peu de contestation, disons, jusqu'en 1955, quand paraissent les mémoires de Marchand, précisément. Ces mémoires sont lues par toutes sortes de personnes, et notamment par un dentiste suédois, le docteur Forsfud, pas très facile à dire, et qui lit tout ça et qui relève, dans les mémoires de Marchand, 28 des 31 symptômes connus d'un empoisonnement à l'arsenic. Or, note Forsfud, Napoléon ne présentait en rien les signes d'amaigrissement. Vous savez, cet amaigrissement qu'on trouve en général chez les personnes atteintes d'un cancer. De plus, son système pileux avait pratiquement disparu. Et ça, c'est le symptôme le plus typique d'une intoxication arsenicale. Ainsi, Napoléon, pense le dentiste suédois, serait mort d'un empoisonnement à l'arsenic. Ce n'est ni une hépatite, ni un ulcère cancéreux qui l'aurait emporté dans la tombe, même s'il présentait, par ailleurs, des symptômes de ces deux affections. Ça, personne ne le conteste. Ce qui aurait, nous dit Forsfud, ce qui aurait entraîné la mort de Napoléon, c'est donc un empoisonnement. Alors, est-ce que... parce qu'on voit qu'il y a de l'arsenic, incontestablement, mais la cause immédiate, nous dit-il, ce serait plutôt un empoisonnement au mercure. Alors là, il faut faire intervenir le calomel qu'on a fait ingérer à l'empereur dans les derniers temps de sa maladie. Figurez-vous que, dans certaines conditions, et notamment au contact du lait d'amande, entre autres, le calomel peut se transformer en un sel de mercure extrêmement dangereux et même mortel. Or, on faisait boire à Napoléon, en même temps que du calomel, du sirop d'orgeat, autrement dit du lait d'amande. Donc pour le dentiste suédois, il y a eu 2 phases, un long empoisonnement progressif à l'arsenic et puis le coup de grâce en quelque sorte, un empoisonnement final par ce mélange fatal de calomel et de sirop d'orgeat. Autant vous dire qu'à l'époque, en 1961, les allégations du médecin suédois ont plutôt fait sourire la communauté des historiens et des médecins. Et du reste, le docteur Gagnère, que j'ai si abondamment cité au début de cette émission, s'est appliqué très précisément à démonter cette thèse point par point. Cependant, une analyse réalisée à la demande du dentiste suédois sur une mèche de cheveux transmise dans la famille du premier valet Marchand aboutit à des résultats troublants. on y constate en effet la présence de fortes doses d'arsenic. Et on en était là lorsqu'en 1978, un fabricant canadien d'articles de sport, M. Ben Wider, qui donc ne fait pas du tout partie au départ de la dite communauté d'historiens, au moment où Wider va mobiliser les médecins et toutes sortes de scientifiques pour tenter de venir à bout de cette grande énigme médicale.
Franck Ferrand sur Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Et le récit de Franck sur Europe 1 pose aujourd'hui cette question. Napoléon a-t-il été empoisonné ?
C'est en tout cas la conviction de Ben Wider, je ne sais pas si on doit dire Wider ou Wider, qui préside la Société napoléonienne internationale. Lui a repris donc en 1978 toutes sortes de recherches en mobilisant des toxicologues, des médecins, même des spécialistes du nucléaire. Et il est même allé consulter des agents du FBI et tous concluent dans un bel ensemble à l'empoisonnement de Napoléon. Ben Wider publie coup sur coup Assassination at St. Helena et Assassination at St. Helena Revisited, qui sont des best-sellers. Et mieux, il écrit avec David Apgood un roman policier qui pose clairement la question « Qui a tué Napoléon ?» Cette thèse de l'empoisonnement, je vais aller assez vite, évidemment, il faudrait entrer dans des histoires infiniment complexes. Mais sachez que cette thèse, elle a été reprise en 1994 par René Maury, qui est professeur à l'Université de Montpellier. C'est ce qui a relancé en quelque sorte la polémique. Lui aussi a fait analyser les cheveux de l'empereur et il contenait une très forte dose d'arsenic. Donc, Napoléon ne serait pas mort simplement d'un cancer. Selon René Maury, c'est en fait le général Montholon qui l'aurait assassiné. Tout le désigne, nous dit René Maury. Sa femme devient la maîtresse de l'empereur. De plus, Montholon est l'exécuteur testamentaire. Bref, la famille aurait eu grand intérêt à le pousser gentiment dans la tombe. Et donc, ce serait un assassinat tout à fait programmé. Est-ce que cet assassinat serait effectué en accord secret avec les Britanniques eux-mêmes? Eh bien, c'est ce que pensent d'autres spécialistes. En juillet 1998, dans la revue de l'Université d'Oxford, le professeur Thomas Hindmarsh, qui est pathologiste et toxicologue à Ottawa, et le docteur Philippe Corso de l'Université de Yale ont publié une étude qui, pense-t-il, est définitive. Eux diagnostiquent d'abord un carcinome gastrique, c'est-à-dire une tumeur de l'épithélium qui s'est développée sur un ancien ulcère. Bon, ça, il y a ce carcinome. Mais, disent-ils, ce n'est pas la cause du décès. La cause du décès, ce serait l'hémorragie interne, une hémorragie bel et bien déclenchée par cette fameuse dose massive de calomel prescrite par les trois médecins britanniques. Alors, je m'empresse de vous dire que Ben Wider lui-même n'était pas tout à fait convaincu par cette étude, qu'il a relancé le débat dès le printemps suivant, en avril 99, en publiant « Napoléon est-il mort empoisonné ?» et en 2005, à un mois d'écart, deux informations diamétralement opposées ont été communiquées à la presse. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais déjà à ce micro et que nous étions tous bien perplexes, car on nous demandait « Et alors, que faut-il en penser ?» Pour tout vous dire, moi je ne sais pas trop quoi en penser. Début mai 2005, c'est une équipe de chercheurs d'anatomopathologistes de Bâle, en Suisse, qui signalait ses conclusions. Selon ces experts, l'évolution de la courbe de poids et de la morphologie de Napoléon Ier dans les derniers mois de sa vie, donc en 1820 et 1821, ne contredit pas le diagnostic officiel et classique d'un cancer de l'estomac. Quant à la présence d'un taux élevé d'arsenic dans les cheveux de l'empereur déchu, eh bien, elle s'expliquerait, je vous avoue que moi je trouve ça pour le coup un peu tiré par les cheveux, par l'utilisation d'arsenic à l'époque dans toutes sortes de pratiques, notamment pour nettoyer les fûts de vin, vous savez. Bon, et voilà qu'un mois plus tard, c'est l'équipe du docteur Pascal Kins, qui est président de l'Association internationale des toxicologues de médecine légale, donc à Strasbourg, qui annonce les résultats apparemment imparables de nouvelles analyses pratiquées sur une mèche authentifiée de cheveux de l'empereur. Et là, il apparaît, semble-t-il très clairement, que Napoléon aurait bel et bien été empoisonné progressivement à l'aide d'une forme très répandue d'arsenic minéral. Ce serait tout simplement de la mort au rat, nous dit l'équipe du docteur Kins. Or, précise le rapport, je cite, « L'arsenic est arrivé dans le cœur même du cheveu, C'est ça qui est intéressant, c'est que quand on analyse les cheveux, en fait, c'est pas de l'arsenic qui serait diffus dans le cheveu, comme s'il avait pu arriver de l'extérieur. Vous savez qu'à une époque, on disait que c'était même l'arsenic contenu dans le papier peint de la chambre de l'empereur.
Donc, ça a été ingéré, en fait.
Mais là, ça a bien été ingéré, puisque il a été poussé dans le cheveu par le flux sanguin. Et là-dessus, il n'y a aucun doute, nous dit le docteur Kintz. Ça ne peut donc provenir que d'aliments ingérés. Et ça, c'était une réponse d'ailleurs tout à fait déterminée à une étude assez démystifiante de la revue Science et Vie qui, en 2002, expliquait que le fameux arsenic présent dans les cheveux de Napoléon serait venu justement de sources tout à fait exogènes. Impossible, dit la nouvelle étude, dont il faut préciser qu'elle a été commandée par le président de la Société napoléonienne internationale, par Ben Wader, tout de même. Impossible. Il faut que l'arsenic en question ait bien été ingéré par l'empereur. Donc on revient là à la thèse de l'empoisonnement, un empoisonnement lent, régulier, à petite dose. Vous savez, c'est la vieille méthode de la Brinvilliers, tout simplement. On aurait administré très longuement des petites doses à l'empereur, d'où une dégradation de son état général, ce qui permet au passage d'écarter les soupçons, parce que tout le monde pense comme ça qu'il est malade, très malade, de plus en plus malade. Et puis à la fin, cette dose massive de calomel associée au sirop d'orgeat qui produit le cyanure de mercure fatal. Or, on sait que le 3 mai, donc deux jours, on va même dire une journée et demie avant la mort de l'empereur, le docteur Arnott, approuvé par Montholon et contre l'avis du médecin personnel de l'empereur Antomarchi, a bel et bien prescrit cette fameuse dose massive. Et si vous analysez les rapports d'autopsie, vous verrez que les corrosions sur les parois de l'estomac ont été causées par des sels de mercure. Donc il y a bien eu formation, il y aurait en tout cas eu formation de poison à l'intérieur de l'estomac. L'œsophage lui-même est en bon état. Quant au gonflement du foie et de la rate, il serait dû à l'intoxication chronique à l'arsenic, les épanchements dans la plèvre du poumon également. Enfin, je vous l'ai dit, Napoléon était devenu presque obèse et tout son système pileux avait disparu. Je vous rappelle enfin cette grave hémorragie stomacale deux jours avant la mort. Dans ces proportions-là, on peut estimer qu'elle a pu être engendrée par quelque chose de particulier. En l'occurrence, peut-être par cet empoisonnement au mercure. Voilà en tout cas où l'on en est. Je pencherai plutôt pour l'empoisonnement, ce qui me concerne, mais je vous avoue que je ne peux pas estimer, en l'état actuel des dossiers dont nous disposons, que l'affaire est véritablement réglée.
Un extrait du Champ d'honneur sur Europe 1, Franck.
Napoléon lui-même, Julia, avant de mourir, avait déclaré « Je souhaite que l'on se penche sur les causes de ma mort ». Eh bien, le moins qu'on puisse dire est qu'il aura été exaucé, car depuis une bonne trentaine d'années, on se penche énormément là-dessus. Alors, cet empoisonnement, vous l'avez bien compris, reste une hypothèse, mais c'est une hypothèse qu'on ne peut pas balayer d'un revers de la main. Le seul moyen de savoir une bonne fois pour toutes de quoi est mort Napoléon Ier, ce serait que la famille et les autorités concernées autorisent l'ouverture de son tombeau aux Invalides, afin de procéder, sur la dépouille de l'empereur, à des analyses qui, très sûrement, apporteraient une réponse définitive. À condition, bien sûr, que le corps enterré aux Invalides soit bien celui de Napoléon. Vous savez ce que je pense de la question. Ce n'est pas l'avis de mon invité, juste après le flash de 14h, puisque nous serons en compagnie de Thierry Lenz.
Sur Europe 1,
au cœur de l'histoire, Franck Ferrand.
On vous retrouve, Franck, avec votre invité aujourd'hui sur Europe 1, Thierry Lenz, qui est directeur de la Fondation Napoléon.
Thierry Lenz qui fulmine, qui trépigne et qui est impatient d'intervenir pour rectifier ce qu'on aurait pu dire sur la mort de l'empereur. Vous ne croyez pas, vous, Thierry, du tout à un empoisonnement?
Non, ni à un empoisonnement, ni à une substitution.
Ah non, mais ça, c'est un autre sujet.
Ni quoi que ce soit d'autre nature. Évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, il faudrait qu'on entre dans des détails infimes. Donc, je me permets de renvoyer vos auditeurs au livre que j'ai écrit avec Jacques Massé sur ce sujet, qui s'appelle La mort de Napoléon, qui est paru chez Perrin, et dans lequel nous démontrons que tout cela fait vendre beaucoup de papier. Apparemment pas notre livre à nous, puisqu'il n'est pas arrivé jusque chez les documentalistes.
Les mystères historiques, ça passionne les gens, mais ça fait pas vendre tant de papiers qu'on le croit, en fait.
Bon, enfin, bref. Disons que sur l'affaire de l'empoisonnement, enfin, vous l'avez dit d'ailleurs sans le dire, et vous vous seriez arrêté là, ça aurait été parfait. C'est que l'autopsie qui a été pratiquée par Antomarchi, vous la donnez aujourd'hui à lire à un médecin légiste, il vous la déchiffre et il vous donne les causes de la mort.
Il n'y avait pas qu'Antomarchi, d'ailleurs. Il y avait
non, mais oui. Alors, Antomarchi, dont vous avez dit qu'il était, c'était sans doute un mauvais médecin. médecin pour soigner, mais sa spécialité était la dissection.
Et un triste personnage quand même, disons-le.
Triste personnage, mais spécialiste de dissection.
Oui.
Et donc, vous prenez son autopsie, vous la donnez à des médecins aujourd'hui, et ils vous disent, bah oui, ce monsieur avait un ulcère perforé, bouché par le foie, qui a dégénéré en cancer. Il souffrait d'une tuberculose qui n'avait pas été entièrement guérie. Et donc, si on nous annonce, bah, ce monsieur est mort, on dit, oui, bah oui, il est mort. Évidemment, il n'y a pas... Mais quand vous avez un cancer, vous ne mourrez pas du cancer. Vous mourrez d'une cause, d'un choc sur votre organisme.
Mais ce que vous dites, c'est qu'il y a une détérioration générale qui, ensuite...
Napoléon a été malade toute sa vie.
Cette toute dernière étude, tout de même, sans vouloir du tout faire de polémique, surtout que, être honnête, je pense qu'on n'a pas, effectivement pas les moyens définitifs de conclure. Mais...
Donc la version réelle est toujours que Napoléon est mort de sa belle-mort.
Mais si l'on admet que c'est effectivement bien un cancer, d'ailleurs il a bien ses ulcérations, etc., personne ne le conteste, est-ce que néanmoins le fait d'avoir ingurgité du calomel au dernier moment et dans ces proportions-là n'aurait pas pu accélérer les choses?
C'est sûr, mais enfin, le calomel n'est pas de l'arsenic.
Non, certes.
Le mercure qu'on retrouve dans l'estomac n'est pas de l'arsenic non plus, c'est du mercure qui vient peut-être du calomel. Alors effectivement, il y a peut-être eu un mauvais soin qui a été donné dans les derniers jours, mais je veux dire c'est pas parce qu'il a été mal soigné pour son ulcère à l'estomac qu'on l'a empoisonné à l'arsenic, et c'est pas parce qu'il y avait des rats à Sainte-Hélène qu'il y avait de la morora, et c'est pas parce que le docteur Kintz dit quelque chose que c'est parole d'évangile, puisque d'autres laboratoires non payés par monsieur Wider ont conclu exactement à l'inverse de ce que dit le docteur Kintz. Et il y a 15 jours sont parus les actes d'un congrès de scientifiques sur ce sujet où là aussi on vous dit au fond le docteur Kintz n'a pas utilisé la bonne méthode, il n'avait pas bien lavé les cheveux, etc. Tout ça, ce sont des choses scientifiques dont les historiens en principe n'ont pas besoin pour ce qui concerne la mort de Napoléon, parce qu'elle est très bien documentée.
Alors que pensez-vous, vous Thierry Lenz, directeur de la Fondation Napoléon, des véritables demandes de l'empereur à la toute fin de sa vie? Il veut qu'on étudie ça très près. Il est convaincu, lui, d'avoir été poussé dans la tombe.
Si vous voulez vous rapprocher deux choses qui ne sont pas à la fois qui ne sont pas liées. Évidemment, quand il accuse l'Angleterre de l'avoir assassiné dans son testament, évidemment, si on veut absolument qu'il ait été empoisonné, on y trouverait là, vous savez, c'est Omar m'a tué, quoi. Bon. Il se trouve qu'il le fait pour des raisons politiques, car l'introduction du testament est très politique. L'ouverture de son corps, il a demandé qu'on vérifie, et c'est écrit, qu'on vérifie s'il était mort de la même maladie que son père, de telle sorte qu'on puisse prévenir son fils. C'est pourquoi l'autopsie n'a concerné que la cage thoracique et l'abdomen. Antomarchi a proposé d'examiner le cerveau. On n'a pas ouvert le crâne parce que Montholon et Bertrand s'y sont opposés. Peut-être on aurait trouvé une tumeur au cerveau. On n'en sait rien. Hein. Bon, mais puisqu'on est dans les suppositions, on peut le dire. Donc c'est tout à fait expliqué. Hein. Napoléon voulait qu'on puisse prévenir, puisque c'était une maladie, j'allais dire endémique chez les Bonaparte. Il voulait qu'on puisse prévenir son fils, etc. Napoléon a eu des idées que nous aujourd'hui on peut pas comprendre. Parce que c'est une autre époque, parce que c'est un autre type.
Oui, les mentalités ont beaucoup évolué sur la vision qu'on a de la maladie. Oui. Cette maladie, il l'a quand même fabriquée, développée par un état de psychique extrêmement déprimé,
oui,
il faut le dire.
Écoutez, Napoléon, d'abord, a été malade toute sa vie, et puis ensuite, il a quitté l'Europe après la bataille de Waterloo dans un état psychologique absolument désastreux. Ses compagnons de voyage sur le bateau ne savaient plus quoi faire pour qu'il arrête de ressasser la chute, Waterloo, et ainsi de suite. Et d'ailleurs, c'est Lascaz qui a eu la bonne idée en lui disant « dictez-nous ce que vous voulez dire là-dessus ».
On est presque un peu surpris qu'un si grand esprit, car je pense qu'on peut dire que c'est un des grands esprits de l'histoire, n'ait pas fait preuve dans des moments aussi terribles de davantage de philosophie, en fait. On n'a pas l'impression qu'il soit capable de prendre du recul, de se mettre en réserve de tout ce qui se passait.
Mais c'est aussi un peu toujours la limite des grands hommes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, eux-mêmes, ils ne sont même plus maîtres d'eux-mêmes. Prenons l'exemple du retour de l'île d'Elbe, des 100 jours et de Waterloo. C'est évidemment pour l'histoire de France et la légende napoléonienne, c'est quelque chose de joli, extraordinaire et d'enthousiasmant.
Oui, c'est une aventure incroyable.
Simplement, c'est la plus grande catastrophe de l'histoire de France avant juin 40. Quoi. Il faut quand même dire les choses telles qu'elles sont. Et c'est la volonté de Napoléon de reprendre le pouvoir qui provoque cette catastrophe. Et il le sait. Et il le sait mieux que personne.
Mais il y va quand même.
Il y va quand même, mais surtout, il en revient totalement dévasté. Quand il rentre à Paris le 21 juin, on le convainc d'abdiquer quasiment en une journée. Il ne résiste absolument pas à l'idée d'abdiquer. Il abdique le 22, donc immédiatement après.
Alors on revient sur Sainte-Hélène, sur les conditions exactes de cet exil, en compagnie notamment de l'homme qui est chargé de veiller sur les domaines français de Sainte-Hélène juste après la publicité.
Jusqu'à 14h30 sur Europe 1.
Plongé au cœur de l'histoire. Avec Franck Ferrand.
Et avec votre invité aujourd'hui, Franck, Thierry Lenz, qui est directeur de la Fondation Napoléon.
Thierry Lenz, qui bien sûr connaît des visus le site de Sainte-Hélène. Ça doit être un voyage inoubliable. Vous vous rappelez votre premier voyage à Sainte-Hélène ?
Le premier pour le moment a été le dernier. Oui, je m'en rappelle bien. Alors, je sais qu'on va en parler un peu avec Michel Martineau, mais je trouve qu'il faut y aller tout seul. Moi, j'y suis allé en groupe. Et effectivement, quand on est en groupe, on a toujours l'effet de groupe. Alors, je pense que la prochaine fois où je vais y aller, j'irai seul et je ne préviendrai personne.
Ça me fait penser aux premières pages de votre très beau livre sur la crucifixion de Velázquez. Vous êtes seul, justement, dans les salles du Prado.
On ne pense bien que seul, Franck. Ouais. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Je suis entièrement d'accord. Je visite toujours tout deux fois, moi. Une fois seul et une fois en compagnie. Ce n'est pas d'ailleurs la même visite. Alors, effectivement, l'homme qui est chargé qui est consul honoraire de France et conservateur des domaines français de Sainte-Hélène, qui vit sur place depuis près de 30 ans, qui occupe ses fonctions officielles depuis 22 ans, c'est Michel Danquan Martineau qui vient de publier chez Perrin un ouvrage.
Un
très bel ouvrage, s'appelle Les Chroniques de Sainte-Hélène, Atlantique Sud. Alors nous allons avoir Michel Martineau en ligne, mais pour tout vous dire, il est évidemment à Sainte-Hélène en ce moment. Et l'on me fait signe, d'ailleurs vous pouvez me le dire clairement dans le casque, ce sera plus simple. Voilà, et on me fait signe que pour l'instant, il n'est pas en ligne. Donc dès que nous aurons obtenu cette liaison avec Sainte-Hélène, nous lui parlerons. Vous m'entendez, Michel Martineau ? Allô, allô ? Non, apparemment, c'est très loin. Je vous ai dit que c'était
très loin. Mais c'est un teasing, les auditeurs vont rester.
Alors qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui, Thierry Lenz, sur place ?
Il reste beaucoup de choses. Il reste donc ce qu'on appelle les domaines français de Sainte-Hélène, qui dépendent du ministère des Affaires étrangères. C'est la maison de Napoléon, la maison de Longwood, donc la maison où il a vécu et où il est mort en 1821.
Qui a été remaniée déjà deux,
qui
trois
a été remaniée
reprises, mais...
une fois de façon très importante en 1930, dans les années 1930. Je dirais que le fameux thé dont vous parliez tout à l'heure, lui est le thé d'origine aux restaurations près, c'est-à-dire qu'on ne sait plus si c'est le manche ou le marteau qui est original. Enfin, on a changé évidemment des choses, mais l'aspect a été rendu grâce à Michel Martineau et à son prédécesseur dans l'état où il était en 1821 au moment de la mort de l'empereur. C'est assez. Alors ça, vous me demandiez les émotions. Ça fait partie des émotions. Et puis la deuxième, c'est le domaine de la tombe.
Quand même. Enfin, moi, je n'ai vu ça qu'à la télévision évidemment, mais on voit que tout est resté. L'atmosphère évidemment est la même.
L'atmosphère est la même. L'odeur est très particulière. Je ne sais pas si c'était l'odeur à l'époque de Napoléon, mais on se rappelle beaucoup des odeurs quand on sort de cette maison qui est magnifiquement entretenue. Le jardin est celui que Napoléon avait dessiné. Ça, c'est là aussi Michel Martineau l'a remis dans cet état-là. Il y a un deuxième lieu qui est la tombe, l'endroit où Napoléon a été enterré de 1821 à 1840. Là, c'est aussi un endroit très émouvant. Et puis, il y a un troisième lieu, le fameux pavillon des Briards, où Napoléon a passé le début de son séjour, qui a été offert à la France par la famille Balcombe, le reste ayant été acheté par Napoléon III.
Alors apparemment, Michel Danquan Martineau est au téléphone. Allô, bonjour Michel Martineau.
Oui. Bonjour.
Voilà, écoutez, on vous entend finalement comme si vous étiez là. Ça a été long à obtenir comme ligne, mais finalement on vous entend et c'est un bonheur. Vous pouvez nous dire quel temps il fait en ce moment à Sainte-Hélène ?
En ce moment, c'est couvert. C'est couvert et il y a 20 degrés.
Ah oui. Donc en fait, c'est un début d'hiver assez chaud.
Nous sommes en plein hiver.
Oui, vous êtes en plein hiver, vous, là-bas, bien sûr. Vous êtes donc, vous, depuis une trentaine d'années à Sainte-Hélène. Vous êtes évidemment celui qui connaît le mieux l'endroit. Et vous avez eu accès, bien entendu, aux archives locales.
Oui, absolument. Tout est en dessous du bureau du gouverneur. Il y a encore accès physiquement aux ouvrages manuscrits. C'est assez confiné comme espace, mais c'est formidable, quoi. On est en direct avec l'histoire là.
Et ça vous a précisément donné envie de faire renaître un certain nombre de personnalités au-delà de la chronique habituelle de Sainte-Hélène, car c'est vrai qu'on a énormément écrit, on a même beaucoup filmé sur cet endroit et sur cet exil de l'ancien empereur Napoléon. Mais en l'occurrence, les personnages que vous mettez vous en avant sont des personnages assez méconnus. Je pense par exemple au révérend Boys.
Le révérend Boyle fait partie. C'est un aspect de sa personnalité qui n'était pas connu. C'est parce que Sainte-Hélène, ça se résume au combat Hudson Lowe, le gouverneur, et Napoléon.
Mais oui.
Et en fait, les personnages charismatiques comme le révérend Boyle, parce que c'est quand même un personnage qui a un certain charisme, ont été un peu mis de côté. Et alors qu'en fait, c'était la bête noire du gouverneur. Il donnait plus de fil à retordre au gouverneur que Napoléon.
Oui, c'est un personnage assez saisissant, il faut le dire. Vous nous parlez aussi d'un personnage qui est un marchand et en même temps quasiment le banquier de l'île, celui qu'on appelle le juif Solomon.
Oui, le juif Solomon, c'est quand on vient à Sainte-Hélène, le nom Solomon est partout, hein, puisque le dernier descendant de la famille a été racheté, sa compagnie a été rachetée par le gouvernement de Sainte-Hélène, donc il monopolise tous les commerces.
Vous avez, vous, écrit la préface de cet ouvrage, Thierry Lenz, et vous soulignez la grande originalité de la démarche de Michel Martineau.
Oui, écoutez, si vous voulez, j'ai essayé de définir ce qu'avait fait Michel, qui est de dire, on inverse le sens du tableau habituel de Sainte-Hélène. Habituellement, on met Napoléon au premier plan avec ses compagnons, le combat contre Hudson Lowe, et puis de temps en temps, on voit passer derrière quelques personnages, le révérend Boys,
On les aperçoit
dans le décor. Et Michel, grâce aux archives, parce qu'il faut quand même dire que c'est d'abord un livre d'historien extraordinairement documenté, Michel les fait passer au premier plan, c'est-à-dire qu'on les connaît tous.
C'est la démarche que j'admire tant chez le nôtre, évidemment, dans les années 1900, qui, partant des vieilles maisons, vieux papiers, disait-il, partant des archives, faisait comme ça renaître des figures oubliées de l'histoire. Oui. Qu'on appelle petite histoire, c'est pas de la petite histoire. Moi, je dis que c'est de l'histoire, c'est de la chronique dans ce qu'elle a de meilleur. Est-ce que vous pouvez nous dire, Michel Martineau, puisque vous vous occupez des domaines français de Sainte-Hélène, si aujourd'hui encore c'est très visité? Vous recevez, j'imagine, un certain nombre de personnalités qui veulent voir la dernière demeure de Napoléon.
Oui, mais le problème, c'est l'isolement de Sainte-Hélène. Nous sommes aujourd'hui beaucoup plus isolés que l'île l'était du temps de Napoléon. On reçoit à peu près 5000 visiteurs par an. Et c'est tout. Le problème, c'est qu'on ne peut y accéder que par bateau. Et il n'y a qu'un bateau qui fait la ligne régulière, alors que du temps de Napoléon, c'était une escale technique.
Vous êtes en train, en ce moment même, de lancer une souscription pour la rénovation du domaine de Longwood.
Oui, ça c'est vraiment avec la Fondation Napoléon. Nous avons commencé ça au mois de novembre dernier. C'est un problème. Il fallait prendre une décision sur ce que l'on a l'intention de faire de la maison de Longwood. Avec la Fondation, on s'est tous mis d'accord sur une certaine stratégie pour permettre au domaine d'être assez confiant dans l'avenir. Et donc, on a élaboré avec un architecte des monuments historiques un projet. Et ce projet, évidemment, a un coût. Et la Fondation Napoléon nous a permis de donner des ailes à ce rêve.
Oui, et il faut absolument qu'on se mobilise. Nous donnerons tout à l'heure à l'antenne les coordonnées, évidemment, pour que les auditeurs qui seraient intéressés, qui voudraient vous aider. C'est très important, hein, ces domaines français de Sainte-Hélène. C'est un petit morceau non seulement du territoire, mais surtout de notre histoire qui est là et qui l'est depuis 1858 grâce à la bienveillance de la reine Victoria, il faut le dire.
Oui, et Napoléon III, et puis... en fait, tout est né. La démarche, c'est l'aboutissement de 40 années de complaintes de tous les voyageurs qui faisaient escale à Sainte-Hélène, qui se plaignaient en rentrant en France de l'état pitoyable de la maison de Napoléon. Et donc, Napoléon III arrivant au pouvoir, donc ça facilite quand même la démarche.
On imagine que si, évidemment, s'il y a deux siècles, il avait été possible de parler aussi facilement au téléphone, l'éloignement que ressentait l'empereur et son entourage aurait été de beaucoup diminué. Merci infiniment, Michel Dancoine-Martineau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Chronique de Sainte-Hélène, Atlantique Sud. C'est publié chez Perrin. Nous vous souhaitons beaucoup de courage et beaucoup de succès dans vos entreprises du bout du monde.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
La vague vient, la vague part, l'air est malsain, l'air est humide. Ici, c'est plus moi qui décide, ombre grise sur rocher noir. Je vois plus que ma mort dans mon miroir. Sainte-Hélène, mouette, mouette, Sainte-Hélène, fête, fête, la charité à un enfant.
À Sainte-Hélène, tout le monde s'en fout, chante Serge Lamas sur Europe 1.
Quel était, Thierry Lenz, le point de vue des Français de l'époque sur ce qui se passait là-bas, si loin? Parce que pour nous, déjà, ça paraît loin, objectivement, on s'en est encore rendu compte il y a quelques minutes. Mais à l'époque, c'était, quand on dit le bout du monde, au sens propre. Hein. Est-ce qu'on s'intéressait à ce qui se passait à Sainte-Hélène?
Très bizarrement, il faut dire les choses honnêtement. Après les 100 jours, il y a eu un rejet de Napoléon en France, très fort à la fois des populations. Alors vous parliez tout à l'heure.
Il a quand même été acclamé.
Est acclamé, etc. Mais c'est quand même la fin des guerres. Il y a 3 ans d'occupation du territoire. Il y a une très forte
retour de la paix, ça évidemment.
Indemnité, une très forte indemnité qui est demandée et donc pompée fiscalement. Donc il y a alors évidemment les anciens de la Grande Armée et tout le monde y pense, on en parle, mais on a peu de nouvelles. D'abord parce que c'est relativement censuré. Il y a très bizarrement, ce sont les Anglais qui sont le plus ouverts, puisque chaque fois qu'un voyageur revient de Sainte-Hélène et se plaint, on retrouve ça dans les journaux anglais. Mais il faudra vraiment attendre après la mort de Napoléon. D'ailleurs, les témoignages au moment de l'annonce de la mort de Napoléon à Paris, juillet 1821, montrent qu'il n'y a pas eu une émotion extraordinaire dans la ville. Et c'est beaucoup plus tard, avec la parution du mémorial de Sainte-Hélène, et puis le décollage du romantisme, si l'on veut. Les premiers romantiques sont tous des fils de généraux de Napoléon.
Ça, donc, les Hugo, les Dumas, voilà, évidemment.
On s'ennuie et donc on rêve au passé et on rêve à Napoléon.
Et nous parlions de Balzac la semaine dernière à ce micro. Lui aussi était complètement ébloui, emballé par cette extraordinaire aventure. Est-ce que sur place, la mort de Napoléon est vécue quasiment comme un soulagement par ceux qui entourent Napoléon? Alors, il faudrait peut-être en deux mots dire qui ils sont, les principaux.
Oui, il y a un certain soulagement. Même le grand maréchal Bertrand, qui est le fidèle parmi les fidèles, qui était pas loin de rentrer en Europe et qui a finalement convaincu sa femme de rester à Sainte-Hélène parce que Napoléon était en train de mourir. Donc on y restait parce qu'on sentait que c'était la fin. Les gens sont rentrés, évidemment, avec beaucoup de tristesse, avec beaucoup de nostalgie, mais ils sont quand même rentrés relativement contents parce que ça a été assez long. Et il faut quand même dire que Napoléon a mené un peu la vie dure aux Anglais, mais beaucoup aussi à son entourage.
Qui devait supporter ça et qui maintenait une sorte de semblant d'étiquette et de protocole.
Le protocole des Tuileries était
maintenu dans ce cadre assez dérisoire, voilà, finalement. Voilà. Vous avez cité le mémorial de Sainte-Hélène, c'est finalement le grand récit qui restera. Heureusement qu'il y a eu ça.
Oui, c'est le grand récit qui a lancé à la fois la légende napoléonienne, mais surtout la légende libérale de Napoléon. Évidemment, pendant son règne, Napoléon a été à peu près tout sauf un libéral. Et il a montré, ou il a fait dire à Lascaz, qu'en réalité, c'était son objectif final, c'était d'arriver à ce libéralisme, à la liberté pour tous, ce que Lascaz a réussi à faire croire. Mais il y a d'autres souvenirs qui sont beaucoup plus directs, c'est ceux du grand maréchal Bertrand, qui lui n'avait pas l'intention de publier, donc il prenait des notes quotidiennes, et je dirais que la vision de Sainte-Hélène n'est pas la même selon l'un ou l'autre.
D'un seul coup, ça prend un tout autre relief. Il y a eu quelques drames aussi, à Sainte-Hélène, l'affaire de Cipriani, quand même,
Oui. Alors l'affaire de Cipriani, qui elle aussi fait partie des énigmes, mais d'ailleurs dans son livre, Michel Martineau en parle, puisque il a retrouvé lui des documents et puis surtout il les a fait comparer avec la situation actuelle de l'île, qui montre qu'au fond c'est une intoxication alimentaire qui a tué Cipriani et c'est pas un empoisonnement de plus.
Enfin, décidément.
Enfin, une fois qu'on le prouve historiquement, j'espère que les gens vont nous croire, quoi. C'est parce que sinon, ça serait à désespérer de tout.
Il faut aider Michel Martineau dans sa, dans son entreprise, là. Alors, comment peut-on faire?
Alors, d'abord, c'est une opération qui est menée conjointement par le ministère des Affaires étrangères, la Fondation Napoléon et désormais la Fondation du patrimoine.
Donc, il faut que le ministère, enfin, j'imagine que le ministère s'investit là-dedans.
Le ministère donnera la moitié des
fonds. Parce qu'après tout, ce sont nos territoires de là-bas,
bien
hein,
sûr,
du
bien
du
sûr. Alors, il le fait, je crois, avec cœur pour ce qui concerne les services directement liés aux affaires immobilières. On a un petit peu plus de mal avec les autres, mais on arrivera à s'en sortir. Le ministère va assurer la moitié du financement. La Fondation Napoléon s'est engagée à financer l'autre moitié, donc il nous faut à peu près 1 million d'euros.
Oui, quand même.
On est à 600-700 000 pour le moment. On a jusqu'à la fin de l'année.
Le but donc, précisément des travaux, c'est ?
Le but, c'est de refaire entièrement le pavillon des généraux, la partie arrière de la maison de Longwood, de restaurer l'intérieur de la maison de l'empereur et le mobilier qui reviendra en France pour être restauré, ce qui donnera lieu, nous l'espérons, à une exposition en 2016 ou 2017 aux Invalides de l'ensemble de ce mobilier. Et pour donner, donc, aller sur le site de la Fondation Napoléon, www.napoléon.org.
Quand on fait un chèque, ça donne droit à une visite
privée?
Bien
sûr, ça donne pas droit à une visite privée, mais en tout cas une déduction fiscale.
Un petit avantage,
quand même. Vous pourrez, comme vous vouliez donner quelque chose tout à l'heure, vous pourrez me donner, vous avez 66% que vous déduisez de l'impôt sur le revenu, mais 75% de l'impôt sur la fortune, Franck.
Merci
peut-être
beaucoup.
Ça pourrait faire
réfléchir. Ça ne me concerne pas pour le moment. Thierry Lenz, vous avez préfacé donc les chroniques de Sainte-Hélène Atlantique Sud de Michel d'Anquoine Martineau. C'est publié chez Perrin. Bonjour Faustine.
Bonjour Franck, j'aime bien votre optimisme quand vous dites ça ne me concerne pas pour le moment.
Pour le moment, j'espère voilà, bien qu'un jour ce sera le cas.
Je l'espère également. Bonjour en tout cas à tous. Avec les beaux jours, il est temps de bien se préparer pour l'été qui arrive en compagnie de notre spécialiste conso, Isabelle Quenin. On va vous donner une foule d'idées pour vous faciliter votre vie cet été. On va faire le tour de la maison avec elle, salle de bain, jardin, pique-nique. Quels sont les objets qui vont changer votre vie, notamment quand la chaleur approche, puisque on voit que la chaleur visiblement a même envie de rester.
C'est très lourd en ce moment.
Ben, j'aime bien parce que je vois vos jupes qui se raccourcissent. Et là, ça fait
bravo.
Un peu étonnant ce que je dis.
Ben oui, vous aimez bien. Donc c'est ça qu'on retient surtout. Hein.
On se prépare en tout cas au beau jour avec Isabelle Quenin qui sera dans une minute avec nous sur Europe 1. Si vous voulez nous parler des objets qui ont changé votre vie et votre quotidien, 39-21 pour nous joindre en direct sur Europe 1.
Il ne faudrait surtout pas vous changer. Merci beaucoup Faustine.
À demain Franck.
À demain Julien.
Thank you.